Bonsoir à vous tous. Bien content de continuer notre série sur les sept péchés capitaux, tous nos efforts. Les sept péchés capitaux et les qualités de ceux qui connaissent Christ. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être ce soir, un petit aperçu sur le slide suivant de ce qu'on a déjà vu. On a commencé avec le péché de l'acédia, la flemme affective, suivi par invidia, le culte de la comparaison. Superbia, le soi au-dessus. Et puis la semaine dernière, c'était l'avarice, la soif de posséder. Ce soir, on continue avec mon préféré, mon péché préféré, la colère. La colère malsaine et la compassion de Christ. Notre texte principal pour ce soir se situe dans l'épître aux Éphésiens. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va commencer direct avec une lecture de, franchement, quelques-uns de mes versets préférés du Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 4. À partir du verset 25, chapitre 4, verset 25, qui dit ceci. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Et puis on continue juste un petit peu en chapitre 5, verset 1. Soyons donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Je vais juste prier. Je te remercie, Seigneur, pour ce privilège de nous rassembler, entre frères et sœurs, avec aussi des invités qui sont là avec nous. Prier, pour chanter, pour nous mettre à l'écoute de ta parole, pour partager le pain et le jus ensemble tout à l'heure. Merci parce que nous sommes, que tu es là avec nous, par ton esprit, tu habites en nous. Et il y a quelque chose de particulier qui se passe quand nous sommes rassemblés comme ceci. On sent que tu as parfois tendance à nous parler d'une manière précise. Peut-être on peut être un peu plus à l'écoute dans ce temps de rassemblement, alors qu'en semaine, ça peut être difficile de nous arrêter, de t'écouter, de passer du temps dans ta parole. Et je prie, Seigneur, qu'on profite au maximum de ces moments qu'on a. Ma demande, c'est que ce que tu as à nous dire dans ce passage et en lien avec ce thème de la colère aujourd'hui, qu'on ait des oreilles pour entendre ta voix. Et que par ton Esprit Saint, que tu nous donnes la victoire, surtout pour ceux qui, comme moi, ont un combat peut-être avec ce péché en particulier. Je prie, Seigneur, que ta parole agisse avec puissance dans nos vies. Nous sommes dans la dépendance de toi et nous prions que tu sois glorifié par ce temps dans ta parole. En ton nom, Seigneur Jésus, je prie. Amen. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'épître aux Éphésiens, la structure est assez simple. C'est un livre qu'on peut couper en deux. avec une première partie, chapitre 1 à 3, qui pose vraiment le fondement théologique pour la vie de l'Église. Puis une deuxième partie, chapitre 4 à 6, qui nous montre concrètement comment vivre sur la base de ce fondement théologique, comment vivre les relations les uns avec les autres. Et on entend ce qu'on peut appeler le fardeau ou l'objectif pastoral de l'apôtre Paul tout au début d'Éphésiens chapitre 4, quand il dit ceci. Il a posé le fondement solide de l'évangile et maintenant il arrive au verset 1 de chapitre 4 et il dit « Je vous encourage donc à la lumière de tout ce que je viens de vous dire par rapport à Christ, son sacrifice, cette paix qu'il a gagnée en versant son sang pour nous. » cette réconciliation avec Dieu et les uns avec les autres, à la lumière de tout ça et ce plan bienveillant de Dieu, je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Puis verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. J'aime trop la traduction en français, supportez-vous les uns les autres. Comme vous savez très bien, il y a différentes manières de comprendre ce verbe, se supporter. Et je sens que l'ambiguïté en français est bénéfique, parce que je pense que Paul a peut-être même plusieurs idées là-dedans. C'est pas facile de se supporter parfois, n'est-ce pas, dans l'Église. Et là, il nous encourage à le faire. Nous avons toutes les ressources nécessaires pour bien vivre même les moments de tension qui peuvent exister entre nous, arriver entre nous. Efforcez-vous, il y a un vrai travail à faire, un effort à faire. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il va, après, dans les versets qui suivent, décrire notre unité en répétant ce mot « un seul corps, un seul esprit, etc. » Donc là, on a aperçu de ce que Paul a vraiment à cœur pour son Église, que cette Église, pour l'Église de Jésus-Christ, que cette Église vive dans l'unité et dans la paix grâce à l'œuvre de Jésus. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans les premiers chapitres d'Éphésiens, Paul dévoile le plan bienveillant, ce mystère caché que Dieu avait formé en Jésus-Christ. Et juste quelques versets pour nous donner un aperçu de ce plan, parce qu'il y a de l'importance pour la suite. En chapitre 1, verset 10, Paul parle du fait que Dieu voulait tout réunir sous l'autorité du Messie. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est dans la terre, une réunion qui est à la fois cosmique et terrestre. Et puis en chapitre 2, verset 16, il revient à cette notion d'unité avec la notion de réconciliation. Dieu a voulu réconcilier l'humanité avec lui-même et aussi nous réconcilier les uns avec les autres en nous réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant ainsi la haine. Et puis, chapitre 2, verset 19, Paul déclare tous ceux qui appartiennent à Christ par la foi en lui, membres d'une seule famille, membres de la famille de Dieu. Donc, on peut dire qu'un des grands objectifs des chapitres 4, 5 et 6, c'est justement de nous montrer comment vivre en tant qu'enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu. Et donc, ce n'est pas surprenant de voir en verset 25, le premier verset de notre lecture, qu'une première motivation que Paul va nous donner pour toutes les instructions qui vont suivre, c'est que nous sommes membres les uns des autres. Vous êtes membres les uns des autres. Et là, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager mon fardeau pastoral. Donc, on a entendu le fardeau pastoral de l'apôtre Paul. Et moi, j'ai ce fardeau en tête, mais je vais être un peu plus précis aujourd'hui en lien avec notre série. Parce qu'alors qu'il y a pas mal d'instructions sur différents sujets dans ce passage, on va cibler quand même la colère. Et donc, voici mon fardeau pour cet enseignement qui s'exprime ainsi. Conscient de notre appartenance les uns aux autres en Jésus-Christ, que nos relations soient caractérisées non pas par la colère malsaine, mais par la compassion de Christ. Ça, c'est mon fardeau. Je vais juste relire une deuxième fois. Conscient de notre appartenance les uns aux autres en Jésus-Christ, que nos relations soient caractérisées non pas par la colère malsaine, mais par la compassion de Jésus-Christ. Je crois aujourd'hui qu'un des plus grands défi, peut-être une des plus grandes menaces pour une église locale comme la nôtre, c'est ce qu'on peut appeler la colère malsaine ou la colère déchaînée, la colère mal gérée. Et donc ce texte va nous équiper pour ne pas tomber dans le piège. Justement, Paul va nous parler du diable, le piège du diable, en laissant notre colère dominer sur nous et sur nos relations et porter du mauvais fruit. Donc, deux points seulement aujourd'hui. Un premier, notre colère est la tristesse du Saint-Esprit. Donc, chapitre 4, versets 25 au 31. Notre colère est la tristesse du Saint-Esprit. Et puis, notre compassion est le sacrifice de Jésus-Christ. Voici les deux points. Et je commence alors avec notre colère et la tristesse du Saint-Esprit. Un verset, une première phrase qui peut nous choquer, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il y a certaines versions, je pense que la Bible du Semeur dit même « mettez-vous en colère et ne péchez pas ». Et donc l'idée, c'est que la colère, c'est quelque chose qui va nous arriver. C'est un élément incontournable de la vie. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se laissent plus dominer par leur colère que d'autres, qui ont un plus grand problème avec la gestion de la colère que d'autres. Mais la colère, ça fait partie de la vie humaine. Et Paul va citer le psaume 4 ici. Justement, cette idée, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, vient du psaume que notre David, a lu tout au début, qui suggère que c'est possible de se mettre en colère sans péché. Je pense que ce serait intéressant, avant d'aller plus loin, justement de définir la notion de la colère ici, parce que pour beaucoup de personnes, le simple mot colère est directement associé au péché. Je comprends pourquoi. Mais j'aimerais faire une petite nuance ici, une petite distinction. Une distinction entre ce qu'on va appeler une colère saine ou encadrée, une colère qui est justifiée et mesurée, une colère qui ressemble à la colère de Dieu, et puis une colère malsaine ou déchaînée, une colère qui peut être déraisonnée et puis finalement destructrice. Destructrice. Donc on a tendance à utiliser ce mot colère à la fois pour parler d'une émotion qui est neutre et puis d'une réaction à cette émotion qui peut être caractérisée par le péché, une réaction provoquée parfois par cette émotion. L'émotion de la colère n'est pas bonne ou mauvaise, elle est neutre. Elle est tout simplement un indicateur intérieur du fait que je ne suis pas d'accord. C'est une manière très simple de le dire. Quand je ne suis pas d'accord, une réaction possible, une émotion qui peut se manifester en moi, c'est cette émotion de la colère. Peut-être je ne suis pas d'accord avec une personne. Peut-être je ne suis pas d'accord avec tout un groupe de personnes. Peut-être je ne suis pas d'accord avec des circonstances que je suis en train de vivre. Peut-être je ne suis pas d'accord avec ton attitude, ton comportement, tes paroles, ta manière de communiquer. Et que ce soit une question d'injustice ou juste une question de préférence personnelle, mon émotion de colère m'alerte du fait que je trouve pas bon quelque chose que je perçois. Voilà. Donc tout ça, c'est possible, cette émotion peut me communiquer ce message. Nico, tu n'es pas d'accord, tu trouves pas bon quelque chose que tu perçois. Je peux être à l'écoute de cette émotion, comprendre son message, dire effectivement, je ne suis pas d'accord, sans péché. Malheureusement, ce n'est pas toujours mon expérience. Trop souvent, cette émotion qui dit, ah, tu n'es pas d'accord, ce n'est pas bon, provoque une réaction malsaine avec la capacité de détruire la paix dans ma relation avec quelqu'un d'autre et de mettre en péril l'unité familiale, qui est justement le travail du Saint-Esprit. En verset 31, vous pouvez regarder ça rapidement avec moi, que toute amertume, toute fureur, il y a une autre traduction qui dit ici toute irritation. Donc on est peut-être face à deux fruits intérieurs d'une colère, tout éclat de voix, toute calomnie ou insulte, et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Là, on a une aperçu de ce qu'on peut appeler une progression périlleuse qui commence avec l'amertume et l'irritation et qui termine avec des éclats de voix et des insultes. Quelque chose qui commence à l'intérieur, qui se manifeste. Et si on donne libre cours à cette progression périlleuse, elle aura tendance à produire diverses formes de méchanceté y compris au sein de la famille de Dieu, dans l'Église. Une conséquence de la colère déchaînée qui, selon le verset 30, attriste le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, on peut se poser la question peut-être face à ça, mais pourquoi est-ce que Paul vise particulièrement le Saint-Esprit ici? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas dire ben, « ça attriste Jésus », le Fils, ou « ça attriste Dieu le Père ». Est-ce que Dieu le Père n'est pas attristé par notre colère malsaine, par nos paroles malsaines qui blessent, qui détruisent? Est-ce que Jésus n'est pas attristé? Bien sûr que oui, mais ici, Paul vise particulièrement le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'unité de l'Église, c'est le grand projet du Saint-Esprit. On vient de le voir au début du chapitre 4, quand Paul expose son fardeau pastoral. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Un des grands travaux de l'esprit, c'est de maintenir la paix et l'unité au sein de la famille. Et donc, voilà pourquoi notre colère, les éclats de voix, les insultes, toute méchanceté, toute forme de péché qui peut sortir de notre colère, et bien là, c'est quelque chose qui attriste particulièrement le Saint-Esprit, celui qui est chargé de veiller sur l'unité de la famille. C'est quand même rassurant. Je ne sais pas comment vous voyez tout ça, mais je suis rassuré de savoir que Paul nous dit que c'est tout à fait possible de vivre cette émotion de la colère sans tomber dans le péché, sans réagir, que ce soit dans mes pensées, ou dans mon attitude de cœur, ou avec mes paroles, ou avec mon comportement, d'une manière qui détruit la paix relationnelle et qui met en péril l'unité de l'esprit au sein de la famille. Et Paul nous propose le psaume 4 comme base de méditation. En citant ce psaume, Paul suggère que peut-être le roi David a quelque chose à nous dire qui peut nous aider à nous mettre en colère sans péché. J'aimerais suggérer qu'il y a trois composants d'un cadre que Paul, et avec l'aide du roi David, aimerait nous aider à imposer sur notre colère, pour que cette colère ne provoque pas des réactions malsaines et du péché. Et je vais juste l'exprimer ainsi, ce petit cadre. Commence avec ton cœur, en prenant du recul et en fermant ta bouche. Je vais répéter, c'est très simple. J'aimerais que chaque personne ici mémorise ce petit cadre. Commence avec ton cœur, en prenant du recul par rapport à la situation et la personne ou le groupe, les circonstances, etc., si possible, et en fermant ta bouche. Ok, où est-ce qu'on trouve ça dans le psaume 4? On vient de le voir, mais je n'ai pas vu ce cadre là-dedans. Le psaume 4, verset 5, dit ceci. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Ok. Roi David, c'est très beau de le dire, mais comment est-ce qu'on fait? Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. On commence avec le cœur. On prend du recul. On ferme la bouche. Dans le contexte du psaume 4, le roi David est probablement, on a très peu d'infos sur sa situation, mais c'est probable qu'il est accusé de quelque chose de criminel ou d'une injustice. Et c'est une accusation qui est fausse, il le sait très très bien. Il y a le mot mépris qui est là-dedans, il y a des mensonges qui circulent à son égard. Et si vous vous êtes jamais retrouvé dans une situation comme ça, où il y a des personnes qui vous accusent injustement, des personnes peut-être qui vous méprisent derrière votre dos, qui font circuler des mensonges, c'est possible que votre réaction ressemble à la réaction du roi David. Ça te met en colère. Moi aussi. Mais c'est fascinant de voir la réaction de David, la réponse de David face à cette situation. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous donne un aperçu de sa démarche. Parlez dans votre cœur, sur votre lit et faites silence. Il commence avec son cœur en prenant du recul et en fermant sa bouche. Donc, quel est l'objectif de ce temps à part en silence? Ou plutôt que de réagir tout de suite, que ce soit avec mes paroles ou avec mon comportement, je m'éloigne de la situation provocatrice. Eh bien, selon le verset 4 de ce psaume, c'est de crier à Dieu. C'est de se mettre à l'écoute de Dieu. C'est de demander l'aide de Dieu. C'est de confier la situation entre les mains de Dieu. Et quel sera le résultat de ce temps à part en silence, selon le roi David? Eh bien, selon lui, c'est le bonheur. Il va dire ceci, juste un petit peu plus tard, après notre verset 5 là. Il dit au Seigneur, fais briller la lumière de ton visage sur nous, éternel. Gardez en tête le contexte. Il est dans un contexte d'accusation fausse contre lui. Mais ce temps à part où il examine son propre cœur sur son lit en faisant silence, change complètement sa perspective. Là, il est devant son Seigneur. Seigneur, dans ces circonstances même, fais briller la lumière de ton visage sur nous. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Et cette conclusion nous aide à comprendre la suite du verset 26. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous avez vu ça? Eh bien, c'est intéressant de voir comment est-ce que David, il se couche ce soir-là. En prenant du recul, en fermant sa bouche, en se mettant à l'écoute du Seigneur, eh bien, il se couche en paix. Si je n'impose pas de cadre à ma colère, si je ne commence pas avec mon propre cœur, en prenant du recul, en fermant ma bouche devant le Seigneur, en cherchant sa face, en demandant son aide, il est fort probable qu'il n'y aura pas de paix dans mon cœur quand je me couche. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Mais quand je suis en conflit avec quelqu'un, un conflit qui est mal géré, quand il y a une colère mal gérée dans mon cœur, j'ai du mal à m'endormir. Ça tourne dans ma tête. Il y a tout un tas d'émotions bloquées à l'intérieur de moi. Et malheureusement, même quand j'arrive à m'endormir, quand je me réveille le lendemain, quelle est ma première pensée souvent? Ah ben c'est l'objet de ma colère. Cette colère qui est mal gérée. Et alors là, Paul dit, attention Nicolas, une colère pas encadrée, une colère pas confiée au Seigneur, une colère pas calmée par sa bonté et son amour aura tendance à devenir une colère malsaine, une colère déchaînée qui provoque le péché, que ce soit dans mes pensées, dans mon attitude de cœur, dans mes paroles ou dans mon comportement. Ça va provoquer le genre de comportement qu'on voit dans le verset 31. Et regardez ce que dit Paul en verset 27, c'est frappant. Il dit « Ne laissez aucune place au diable. » Dans la Bible du Semeur, nous lisons « Ne donnez aucune prise au diable. » Si je laisse traîner ma colère, j'ouvre la porte à l'influence du diable dans ma vie et dans cette relation et peut-être dans cette église. Et l'objectif du diable n'est pas de construire, d'édifier. Il ne cherche pas notre bonheur. Non, il cherche à nous détruire. Il veut détruire notre paix, il veut détruire notre unité en Christ. Et quand nous nous laissons dominer par notre colère, nous devenons des partenaires du diable. J'aimerais juste redire ça. Et ce n'est pas pour vous juger personnellement. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez que là, je suis en train de prêcher à moi-même. Nicolas, quand tu te laisses dominer par ta colère, tu deviens partenaire, collaborateur, collègue du diable. Tu participes à la destruction qui est son objectif au sein de l'Église ou peut-être à la maison. Je suis très rassuré par trois motivations puissantes que Paul nous donne dans ce passage pour nous aider à vouloir justement imposer un cadre à notre colère, ne pas nous laisser dominer par elle. Et la première motivation, on l'a déjà vu en verset 25. En Christ, nous sommes membres de la famille de Dieu et donc membres les uns des autres. Et donc, quand je prends du recul face à cette situation provocatrice, et je ferme ma bouche et j'examine mon cœur. Qu'est-ce qui va se passer dans ma tête? Eh bien, une chose, c'est que je me rappelle du fait que ce frère, cette sœur, pour certains d'entre nous, peut-être la sœur, c'est ma femme. Peut-être le frère, c'est mon enfant. Peut-être c'est mon collègue. Ou ça peut être un autre membre de l'Église. Eh bien, justement, nous sommes membres l'un de l'autre. Nous faisons partie du même corps. Et ça, c'est un rappel hyper important avant de dire quoi que ce soit dans une situation qui provoque ma colère. Il y a une deuxième belle motivation dans ce texte. Cette idée, se laisser dominer par sa colère, c'est ouvrir la porte au diable. Plus je suis conscient du fait que je deviens collègue du diable, moins j'ai envie de participer à ce projet-là. Et donc, quand je m'éloigne et je réfléchis et je me rappelle du fait que Nicolas, si tu envoies ce texto-là, tu es partenaire du diable. Si tu envoies ce mail-là, tu contribues aux œuvres du diable. Si tu réagis dans l'attitude de cœur que tu as maintenant, alors là, tu es ami du diable. Et ça, mes amis, c'est une motivation puissante pour me prendre le temps pour me calmer. Puis une troisième motivation, justement, le Saint-Esprit de Dieu est attristé par les paroles malsaines qui sortent de mes bouches. Je ne sais pas ce que vous imaginez, mais je trouve ça tellement frappant, cette image de l'Esprit-Saint attristé. Il n'est pas en colère contre moi. Il est attristé par ce qui se passe dans mon cœur. Attristé par l'impact que cette colère malsaine a déjà sur moi et ma relation avec mon Dieu, mais aussi sur les relations que j'ai avec les autres. Et ce souvenir du fait que son objectif, son travail, c'est de justement nous garder dans un esprit d'unité. Alors là, ça m'aide à vouloir agir, pas dans une colère malsaine, mais plutôt dans la compassion. Je vais juste prier rapidement par rapport à ça avant de conclure avec quelques pensées sur la notion de la compassion. Seigneur, j'ai juste envie de m'arrêter là brièvement pour faire appel à toi. Je suis sûr que je ne suis pas la seule personne ici présente aujourd'hui pour qui la bonne gestion, la gestion de la colère, c'est un combat. Et j'aimerais que tu nous encourages, Seigneur, et que tu nous accompagnes pour que nous ne soyons pas découragés face à cet appel à nous mettre en colère sans péché. Je t'invite à remplir nos cœurs d'une espérance que, en Jésus-Christ, tu nous donnes tout ce qui est nécessaire pour qu'on ait la victoire, pour qu'on arrive à examiner nos propres cœurs, à prendre du recul, à fermer nos bouches plutôt que de nous laisser dominer par notre colère. Je te demande même maintenant de remplir le cœur de celui et celle qui lutte avec ce combat précis d'espérance du fait que le changement est possible. Le progrès est possible, la croissance, même la transformation est possible en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette espérance. En ton nom. Amen. Donc juste un dernier point rapide, notre compassion et le sacrifice de Jésus-Christ. Donc on vient de parler de notre colère et la tristesse du Saint-Esprit. Et avec ce deuxième point, j'aimerais nous encourager à préparer nos cœurs dès maintenant pour le moment que nous, on appelle la Sainte Cène. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien le fonctionnement de l'Église en général, notre Église en particulier, souvent après la prédication, on va s'arrêter. Il y aura un petit moment de prière, de silence pour partager le pain, faire circuler des petits morceaux de pain qui sont pour nous des symboles du corps de Jésus-Christ. On fait circuler aussi des petits gobelets de jus de raisin, symbole du sang de Jésus-Christ. Et c'est une occasion pour nous, semaine après semaine, de mettre en pratique ce que Paul nous encourage à faire ici, de nous arrêter, de prendre un petit peu de recul intérieur, nous laisser examiner, et surtout si on arrive au culte avec une colère malsaine qui traîne dans le cœur. C'est le bon moment. Apporter ça au Seigneur et pratiquer ici, tous ensemble, avec l'encouragement du corps, ce qu'on aimerait vivre tout au long de notre semaine quand on a besoin. Donc, dans mon introduction, je vous ai partagé mon fardeau pastoral. Je répète juste encore une fois ici, conscient de notre appartenance les uns aux autres en Christ, que nos relations soient caractérisées non pas par la colère malsaine, mais par la compassion de Jésus-Christ. Et là, j'aimerais juste relire encore une fois ces beaux versets qui terminent notre passage, verset 32 du chapitre 4, au chapitre 5, verset 2, où Paul dit ceci, « Soyez bons. » Et plein de compassion, ça fait tout le contraste avec ces réactions de colère malsaine qu'on vient de voir en 31. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Donc, en agissant ainsi, vous serez les imitateurs de Dieu parce que Dieu, il est comme ça. Dieu est bon et plein de compassion. Dieu est rapide à pardonner nos fautes. Et donc, en agissant ainsi dans des situations de tension, vous ressemblez à votre Dieu, vous êtes imitateur de Dieu. C'est le désir du cœur de chaque enfant de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Jésus-Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Dans ces versets, Paul nous donne trois vérités à méditer. Et c'est avec ça que j'aimerais terminer. Qu'est-ce que je fais quand je m'éloigne de la situation qui a provoqué ma colère et je vais que ce soit dans ma chambre ou peut-être je monte dans les montagnes, je trouve un lieu à part, tout seul avec le Seigneur. Et j'examine mon cœur et je ferme ma bouche. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Eh bien, lui nous donne trois vérités à méditer ici. D'abord, le pardon de nos péchés. Il nous encourage à commencer, alors que je suis convaincu peut-être que ce que l'autre m'a dit, c'était injuste. Ma situation, c'est pas juste. Alors là, il m'encourage à commencer d'abord avec la réalité de mon propre péché. Ok, peut-être c'était méchant. Oui, ils sont en train de te mépriser. Oui, ils sont en train de circuler des mensonges à ton égard. Mais commence avec toi-même, Nicolas. Souviens-toi de ton propre péché, d'abord. Et pas que de ça, mais aussi du pardon du Seigneur. Le Seigneur t'a pardonné tous tes péchés. Et maintenant, il va t'inviter aussi à pardonner cette personne. Donc une première vérité à méditer quand je suis tout seul et j'examine mon cœur en fermant ma bouche, c'est la réalité de mon péché et la bonne nouvelle de péché pardonné en Jésus-Christ. Une deuxième, c'est l'amour de Dieu notre Père. C'est le souvenir du fait que alors que j'étais pécheur, ennemi de Dieu, Dieu m'a aimé. Et c'est à ce moment-là quand j'étais dans une rébellion totale par rapport à sa volonté et son plan bienveillant, il a envoyé son fils Jésus comme un sacrifice pour mes péchés. C'est justement ça le troisième point, le sacrifice par amour de son fils Jésus-Christ. Donc je nous encourage à avoir peut-être des versets bibliques qui parlent de ces grandes vérités devant nos yeux. Franchement, ce passage d'Éphésiens 4, c'est super. Quand je me retrouve tout seul pour gérer ma colère, pas que ça déborde dans une colère malsaine, hop, Éphésiens 4. Et je médite ces grandes vérités afin que le Seigneur fasse son travail et que je retrouve la joie du roi David qu'on voit dans le psaume 4. Je vais m'arrêter là, les amis, et je vais inviter peut-être quelques personnes à venir m'aider à distribuer le pain et le jus. Si vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, celui qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de vos péchés, vous êtes les bienvenus pour prendre le pain, symbole de son corps brisé pour nous, prendre le jus, symbole de son sang versé pour le pardon de nos péchés. Si vous ne savez pas comment vous vous positionnez aujourd'hui par rapport à tout ça, bon, ce n'est pas du tout grave. On va juste laisser passer ces éléments. Et vous pouvez profiter de ce temps juste pour digérer un peu ce que vous venez d'entendre. Mais pour tout le monde, je vous encourage à profiter de ces moments pour vivre cette démarche que je viens de présenter. Prendre un peu de recul intérieur, peut-être par rapport à une situation qui pèse sur vous actuellement. Les bouches fermées, on se laisse examiner le cœur. On oriente le regard vers le pardon, l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus-Christ. Et si à un moment donné, vous avez envie de prier à haute voix, n'hésitez pas. Je vais juste prier que le Seigneur nous conduise dans ce temps. Merci encore pour ce beau texte. Je te demande tout simplement, Seigneur, par ton Esprit Saint, de nous accompagner dans ce petit moment de silence, de réflexion. Je te demande de parler à nos cœurs, Seigneur, de nous délivrer de l'emprise d'une colère malsaine, de nous apprendre à nous mettre en colère sans péché, à prendre du recul, à fermer nos bouches, et tout seul avec toi, à retrouver la joie de notre salut et le bonheur de notre communion avec toi, pour qu'on arrive à rétablir la communion avec l'autre, peut-être qui nous a fait mal, plutôt que d'être partenaire du diable. Aide-nous, Seigneur, en ton nom. Amen.